Ce matin, on est dans la joie d'être ensemble, on est dans la joie d'être avec le Seigneur. Et ce matin, on va souligner une chose importante, c'est le potentiel inouï que Dieu a mis en nous. Parce que je crois que trop souvent, comme disait un petit peu Jérémie tout à l'heure, on se dénigre un petit peu, hein. On se rabaisse ou on se voit pas tout à fait tel que le Seigneur nous voit ou tel que le Seigneur a voulu nous faire, hein. Et ce matin, on va se concentrer sur quelques versets de la lettre aux chrétiens de Galates, qui étaient des gens, malheureusement, qui avaient entendu l'évangile. Ils avaient cru au Seigneur et ils voulaient se remettre sous la loi. Ils voulaient se remettre sous la fierté de pratiquer la loi un petit peu par leur propre force, de dire, voyez, un peu comme dit Jérémie aussi, voyez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est tout le contraire que le Seigneur est venu nous apporter à la croix. C'est tout le contraire. Il nous a apporté un potentiel à tel point que nous pouvons semer pour l'Esprit. Et l'Esprit est au centre de ce message, puisque vous savez qu'on fait une série cette année. Enfin, je fais une série cette année sur le Saint-Esprit, compagnon de tous nos instants. Et ça, si ça peut marteler nos vies tous les jours, de se dire, le Saint-Esprit est mon compagnon de tous les instants. Il n'est pas là-haut, il est là. Il est venu à la Pentecôte et il habite dans mon cœur si j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu a fait de moi, de vous, si vous êtes chrétien, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Ne nous privons pas, mes amis, de ce Saint-Esprit dont nous avons tant besoin pour vivre cette course chrétienne qui n'est pas facile, qui demande beaucoup d'efforts, et efforts que nous ne pourrions pas faire sans le Saint-Esprit. Et dans ce potentiel extraordinaire, nous pouvons semer pour l'Esprit, nous pouvons produire par l'Esprit, et nous pourrons récolter de l'Esprit. Ce sont des expressions purement bibliques. Et donc, comme j'ai dit, on va se concentrer sur quelques petits versets de Galates 6, versets 7 à 10, pour ceux qui sont peut-être en Zoom ou qui vont entendre l'enregistrement. Alors, avez-vous remarqué une chose dans notre société dite numérique? Ce qui caractérise notre société numérique, vous aurez pu le constater, c'est un déferlement de haine, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, dans le métro, n'importe où. Le harcèlement, la malveillance, la maltraitance, la calomnie, la méchanceté, la violence gratuite, même dans cette campagne électorale qu'on prépare pour les présidentielles, quand on écoute les propos, quand on voit que les gens rebondissent sur la moindre petite phrase, le petit mot sorti du contexte, on voit toute cette malveillance qui caractérise notre société actuelle. Et je pense que nous, chrétiens, nous sommes mal dans cette société. Nous sommes mal à l'aise à cause de ça. Il y a un mot qui a été créé, je pense, enfin, je ne sais pas si ça existait avant, le mot « ensauvagement ». En 2021, les créatures de Dieu qui ont entendu l'évangile ou qui ont entendu parler de Dieu, qui ont entendu parler de tous ses bienfaits, tout ça depuis des milliers d'années, au moins 2000, voire plus, pour ce qui concerne par exemple les Juifs, eh bien, ils deviennent sauvages. Ils deviennent malveillants. Ils deviennent violents. Et nous, parfois, il nous arrive aussi de tomber un peu dans ce genre de choses, parce qu'on est influencé et parce qu'on a une vieille nature pécheresse. Alors l'Église, dans tout ça, face à ce fléau de la malveillance et de toute cette violence, quel impact dans ce monde de brut ? Il y avait une pub qui parlait du chocolat dans ce monde de brut, comme une source de douceur dans ce monde de brut. Quelle monnaie d'échange par rapport à cette malveillance constante? Quelle réponse? Est-ce que c'est le silence radio? Est-ce que c'est la clandestinité de la vie de nos églises? Au contraire, est-ce que c'est le sel de la terre? La réponse. Est-ce que c'est la lumière du monde? La réponse. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Normalement, notre présence devrait avoir une influence sur ce monde, même s'il n'écoute pas toujours, bien entendu. Est-ce que c'est plutôt la polémique? Parce que ça, c'est aussi ce qui caractérise les réseaux sociaux et toute notre société. La moindre chose est source de polémique. Donc derrière la polémique, il y a souvent de la malveillance. Ou est-ce que c'est du militantisme? Alors on va descendre dans la rue et puis... Quelle est notre réponse à cette malveillance ambiante, à ce monde violent, ce monde polémique? Alors pourtant, l'Église de Jésus-Christ a un potentiel inouï. Et ça, c'est une chose que j'aimerais que vous reteniez ce matin, si vous ne l'avez pas déjà, si vous n'en êtes pas déjà convaincu profondément. Bien sûr, nous avons des moyens matériels, bien sûr, nous avons des moyens humains, bien sûr, nous avons des dons, mais nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons un potentiel spirituel inouï. Je n'ai pas mis le mot spirituel, mais il est tellement évident. Nous avons un potentiel inouï. Nous avons déjà un message révolutionnaire. Nous avons parlé, c'était au mois de décembre, de la véritable révolution que Dieu a faite dans nos vies. Ce n'est pas une religion que nous avons apprise par cœur. Dieu est venu dans notre vie et il a bouleversé notre vie, plus ou moins, mais il a révolutionné notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il nous a apporté un message. Le message de l'Évangile est un message révolutionnaire. Parce qu'il montre que nous avons besoin de Christ, que nous avons besoin de Dieu pour faire tout ce que nous faisons au quotidien. Et en plus, c'est un message bienveillant. Nous connaissons notre Dieu, il est bienveillant. Il ne veut pas, comme a dit notre frère tout à l'heure, nous écraser comme des mouches. Il est bienveillant à notre égard. C'est un Dieu qui comble, nous l'avons vu au mois d'octobre aussi. Un Dieu qui remplit. C'est son plaisir de nous remplir, de remplir nos vies de toutes sortes de bonnes choses. Pas que pour nous d'ailleurs. Il nous donne aussi une espérance vivante, même après la mort physique. On peut mourir du Covid aujourd'hui. Nous savons, si nous sommes en Christ, où nous allons. Nous pouvons avoir des vieilles douleurs. Nous pouvons être handicapés d'ici ou de là. Nous savons où nous allons ensuite. Quel message, quelle espérance. Nous avons un Sauveur qui est venu en chair afin que nous ayons une vie surabondante. Non, c'est ça qu'on avait vu au mois de novembre, au moment de Noël, cette surabondance de toutes sortes de choses. Christ nous a apporté une bien autre surabondance. Il est venu afin que nous ayons une vie surabondante, qui déborde en bénédiction sur les autres, croyants ou non. Et enfin, il nous a mis dans un régime nouveau de l'esprit qui vivifie. Nous ne sommes plus sous le régime ancien de la lettre, vous vous rappelez, sous l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Nous sommes sous le régime du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, qui vivifie, alors que la lettre tue, l'Esprit vivifie, et qui produit en nous et à travers nous des fruits extraordinaires que j'aimerais qu'on redécouvre ce matin, plutôt que de les chercher peut-être dans notre vieil homme, qui est capable de bonnes choses aussi, mais à condition que le Seigneur les fasse à travers nous. Alors, des fruits pour un monde qui en a bien besoin. Quand on voit, par exemple, tous ces gens qui mettent fin à leur vie. Vous avez peut-être vu Stromae, le chanteur, qui a fait une chanson là-dessus. Il est passé par la dépression. On voit d'ailleurs qu'il a eu un traitement. Il est un peu bouffi. Enfin, je ne sais pas si c'est le traitement, mais bon, peu importe. Mais des gens qui s'épanouissent dans la musique, qui font des tournées, qui gagnent de l'argent et qui finalement ont besoin d'espoir, ont besoin d'espérance. Et nous l'avons cette espérance. Ça fait partie de notre potentiel, non seulement pour nous mais pour les autres. Ce monde en a bien besoin, ce monde de malveillants par nature a besoin de Dieu. Ne serait-ce que la bienveillance. Et il y a des non-croyants qui ont pris conscience de ça, que la bienveillance, c'est important. Donc nous sommes porteurs de cette bienveillance en Jésus-Christ Et nous avons ce potentiel infini d'apporter à notre monde et aux autres croyants tous ces bons fruits que le Saint-Esprit peut produire en nous. C'est le potentiel d'une graine. Dans le mot potentiel, on retrouve l'idée de la graine. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà vu une graine. Quand vous regardez une graine, ça ne paye pas de mine. Vous vous dites, mais c'est tout sec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Prenez une graine de haricot, vous avez tous fait ça étant gamin à l'école. Une graine de haricot que vous mettez dans de la mousse avec un peu d'eau, cette graine commence à sortir tout un potentiel. Vous dites, mais d'où ça sort? Elle était toute sèche. Elle était là dans un placard depuis des années. Et tout d'un coup, le potentiel s'exprime. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Il veut pas que nous soyons une graine dans un placard sèche, mais une graine qui réalise tout son potentiel et qui développe la vie de Christ pour les frères et sœurs et pour les non-croyants. Et la graine, Jésus en parle en Matthieu 13, 31 à 32. Il prend l'exemple d'une graine de moutarde. Vous avez tous acheté de la moutarde à l'ancienne. Vous voyez alors dedans une petite graine de moutarde. C'est vrai que c'est pas très gros, hein. Eh bien, il dit une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son champ, c'est la plus petite de toutes les semences. Je ne l'ai pas vérifié, mais on le croit. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. L'oiseau, il pourrait manger la graine. Mais s'il est un peu patient, il va pouvoir faire de l'arbre son abri, son logis, son point de vue peut-être, sa protection des prédateurs. Alors quelle est cette graine à votre avis que je vais vous montrer maintenant? Moi j'aurais vu ça, j'aurais pas trop su. En plus elles se ressemblent pas toutes, elles sont plus ou moins grosses. Il y en a qui sont grosses comme un petit pois, il y en a qui sont plus grosses comme un pois chiche. Quelqu'un a-t-il une idée? Un spécialiste peut-être dans la salle? Pardon? Eh non, c'est plus exotique que ça. Oh, moi je l'aurais pas trouvé, rassurez-vous. Eh bien, c'est une graine de baobab. Une graine de baobab. Et le résultat, si cette graine développe son potentiel plutôt que de rester dans le placard, voilà ce que ça donne. Enfin, ça c'est un exemple, parce qu'il y a des espèces de baobab qui poussent très 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 haut, à je ne sais combien de hauteur, et il y en a d'autres qui restent plutôt en largeur. Vous voyez la taille humaine à côté, c'est impressionnant, hein, quel potentiel. Eh bien, nous, notre vie en Christ, elle est comme cette graine. Elle paye pas de mine. On est des gens, on va au travail le matin, on mange à midi, le soir, un petit déjeuner, nana. On a l'air d'être des graines sans importance. Des graines qui payent pas de mine. Mais quand ces graines se mettent à s'épanouir en Christ, à laisser le potentiel sortir, on est capable de grandes choses. Et Jésus lui-même a dit que nous ferions des œuvres plus grandes que les siennes. Je ne me demande lesquelles. Mais quand il serait retourné auprès du Père, et pourquoi? Justement parce qu'il allait envoyer son Saint-Esprit. Et là, c'est pas des miracles. Enfin, c'est pas des choses extraordinaires nécessairement qu'il faut chercher, mais on est capable d'un grand nombre de choses grâce à l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, puisque vous savez que Jésus, lui, il est remonté auprès de son Père. Il n'est plus ici en chair et en os, mais en esprit, il est là par le Saint-Esprit. Et nous avons un potentiel inouï par le Saint-Esprit. Pierre nous parle de semences, l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 1, 22, 23, il dit « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence, d'une graine incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole qui a créé l'univers, elle a fait de vous de nouvelles créatures. Et c'est la même parole que vous lisez ici. Et cette parole, elle peut développer un potentiel extraordinaire dans votre vie si vous la laissez faire son travail, si vous vous y intéressez. En fait, nous sommes de nouvelles créatures, comme vous le savez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et il n'est pas qu'une créature graciée, parce que des fois, nos vies chrétiennes, elles se limitent à ça. Je suis une nouvelle créature parce que j'ai été créé à l'image de Dieu et j'ai été sauvé selon Dieu. Et alors, je suis sauvé, je suis content. Non, nous sommes des créatures capables d'aimer. Humainement, si nous comptons sur notre amour humain, que ce soit dans le couple, dans la famille, que ce soit dans le monde, que ce soit vis-à-vis de nos ennemis, nous sommes incapables par nous-mêmes d'aimer, comme Christ veut que nous aimions. Mais par la semence qu'il a mis en nous, nous sommes capables d'aimer. Même si nous nous sentons incapables, nous avons le potentiel d'aimer par le Saint-Esprit en nous. Waouh ! Vous réalisez ce potentiel que vous avez. Et l'apôtre Jean, l'ami intime de Jésus, disait dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Waouh ! « Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En fait, on sait que le péché n'est pas une pratique normale et habituelle chez le croyant. C'est plutôt un accident de parcours quand nous ne laissons plus le Saint-Esprit à la manœuvre. C'est très facile à repérer quand vous commencez une journée, vous avez fait votre petit culte personnel, vous allez en course et vous faites n'importe quoi dans la journée, et tout à coup, paf, vous oubliez un petit peu le Saint-Esprit, la parole de Dieu. C'est normal, il y a d'autres choses qui viennent, mais est-ce qu'on s'est vraiment bien préparé pour cette journée, dans la prière et tout ça? Et puis tout à coup, ben vous avez votre vieil homme qui revient à la surface, et puis qui, oh, vous dites zut, pardon Seigneur, franchement j'ai été malveillant. Franchement, j'ai été harcelant. Franchement, j'ai... Mais ça, c'est accidentel. Nous avons le potentiel de ne pas pécher. C'est incroyable, cette vérité. Parce que on sait très bien que nous tous, il nous arrive de pécher. Et la meilleure preuve, c'est que ce même apôtre Jean, il dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et il dit, si tu confesses ton péché, eh bien, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Mais nous avons la graine, le potentiel de ne pas pécher. Donc ça, c'est encourageant parce que ça peut nous aider à se dire, on peut aller de victoire en victoire sur le péché. Il y a même un verset dans les Hébreux qui me vient à l'esprit qui dit que vous n'avez pas résisté jusqu'au sang dans cette lutte contre le péché. Il dit aux Hébreux. Donc, des fois ça coûte cher de lutter contre le péché. Si nous regardons une graine, avons-nous la certitude de son potentiel? Une petite graine de blé, une petite graine, bon. Hein, les graines sont vraiment petites, même les fleurs, quand vous ouvrez... vous achetez un sachet, vous vous demandez s'il y a quelque chose dedans. Tellement c'est léger. Mais vous ouvrez et vous trouvez des toutes petites graines, minuscules. Et pourtant, elles ont un potentiel. Si nous regardons à nous-mêmes, c'est la même chose. Il y a un doute, parfois, n'est-ce pas? Mais quel potentiel j'ai donc? Quel potentiel? Le potentiel du Saint-Esprit, si vous l'avez reçu, si vous avez mis votre confiance dans le Christ, Jésus, Sauveur et Seigneur. Nous avons un potentiel inouï grâce au Saint-Esprit, mais trop souvent inexploité. Les graines sont dans le placard. Que faisons-nous de ce potentiel inouï? Ignorons-nous la graine et son potentiel? Ou allons-nous chercher d'autres graines qui nous paraissent peut-être plus sympathiques? Ne semons-nous pas de la bonne graine ou peut-être de la bonne façon? Il y a un principe dans ce passage, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. D'ailleurs, c'est rentré dans le langage courant. On récolte ce qu'on sème. Celui qui sème le vent récolte la tempête. On a ça dans le langage courant. C'est un peu la même idée. Et littéralement, c'est amusant l'expression, c'est pour l'anecdote. On ne se mouche pas en signe de dédain sur Dieu. On ne lève pas le nez contre Dieu. C'est cette idée de ne pas se moquer de Dieu, qu'un jour il va nous demander évidemment des comptes, mais ce qu'on sème, on va le récolter. Donc si on sème le bien, on va récolter le bien. Si on sème ce qui n'est pas bien, on va récolter autre chose. Et on ne se rend pas compte, mais on sème tous les jours. On sème des paroles. Des fois qu'on regrette d'ailleurs. On dit « Oh, qu'est-ce que je lui ai dit là ?» On sème des gestes, des attitudes et toutes sortes de choses. Tous les jours, on sème. Mais il y a deux façons de semer selon la Bible, selon l'apôtre Paul dans Galates 5, 6, verset 8. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, sa chair, récoltera d'elle la ruine. Littéralement, la corruption. Mais, c'est ce qui est important, celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. En d'autres termes, ça c'est dans la traduction parole vivante de M. Alfred Kuhn, il développe pour mieux cerner le sens de cette vérité, celui qui sème exclusivement dans le domaine de sa vie terrestre, consacrant tout son temps et toute son énergie, force et bien à la réalisation de projets humains ou en développant les instincts de sa vie inférieure, moissonnera aussi sur ce terrain, mais dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort, car tout ici-bas est voué à la corruption. C'est ce que Jésus appelle aimer le monde en tant que système. Et qu'est-ce qu'on sème, n'est-ce pas, par rapport à ce monde, hein, des fois ? Par contre, celui qui sème dans le champ de l'Esprit Saint, qui se dépense pour les choses spirituelles ou qui développe sa vie intérieure de communion avec Dieu, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Alors évidemment, il ne s'agit pas du salut ici. On sait bien que le salut n'est pas par ce qu'on fait, mais par la grâce de Dieu. Mais ça permet de retrouver ses trésors dans le ciel d'éternité avec Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Vous vous rappelez cette phrase de Jésus ? Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est effectivement semer dans le champ de l'Esprit Saint. C'est collaborer avec l'Esprit Saint. C'est se laisser diriger par l'Esprit Saint. Alors, c'est une sorte de retour sur investissement. On récoltera ce qu'on a semé. Si sur terre, nous avons passé notre temps à nous consacrer aux choses de ce monde, bien sûr que certaines sont nécessaires, on a besoin de travailler, on a besoin d'un toit, on a besoin de vêtements, on a besoin de nourriture, on a besoin d'élever nos enfants, et ça c'est tout à fait naturel, et c'est tout à fait bon aux yeux de Dieu. Mais si ça devient la préoccupation principale, nous passons à côté de la vie du Saint-Esprit. Par contre, si nous semons dans le champ de l'Esprit, comme il s'est dit ici, nous investissons des trésors dans le ciel. Et nous récolterons de l'Esprit, nous moissonnerons de l'Esprit ces bonnes choses. Ça n'est pas perdu, c'est bien gardé quelque part. Mais il y a un risque dans cette démarche. Ça nous est donné dans le verset 9 du chapitre 6. « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Voilà un risque. La vie chrétienne, parfois on est fatigué, parfois on a lutté, on a tendance à se relâcher. Imaginez un sportif qui se relâche, il ne va pas moissonner beaucoup de résultats. Hein. Ça, c'est le risque. Alors, on peut le traduire aussi, ne nous décourageons pas de faire le bien. Et littéralement, ça veut dire ne nous lassons pas de faire le bien. Ça, c'est le projet de Dieu dans nos vies. Il nous a donné un potentiel, c'est pour bénir autour de nous. Que ce soit croyant, non-croyant, on verra tout à l'heure. Il nous a donné ce potentiel et il nous met en garde de ne pas nous lasser. Parce que nous sommes faits de chair et de sang aussi. Et que parfois nous pouvons nous lasser. Alors pourquoi on pourrait se lasser? Alors le risque est de se relâcher, de se lasser de faire le bien, bien sûr. Pourquoi? Parfois on a l'impression, à tort ou à raison, que c'est toujours les mêmes qui font le bien et qui donnent, alors que d'autres passent leur temps à profiter, à recevoir, sans trop donner. Ça, parfois, on a cette impression. C'est toujours les mêmes qui se plaignent des autres et les mêmes qui ne se plaignent pas. C'est toujours les mêmes que l'on plaint. Et certains, on ne les plaint jamais, alors qu'ils sont fidèles. C'est toujours les mêmes qui attendent des autres, alors qu'eux-mêmes ne se sont guère souciés des autres, oubliant cet enseignement de Jésus, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » L'amour de Dieu n'est jamais à sens unique, toujours à double sens, les uns, les autres. Et s'il n'y a pas les uns, les autres, alors nous nous lassons, alors nous nous décourageons, parce que nous aussi nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin de marques d'amour, nous avons besoin de bienveillance, nous avons besoin de douceur, nous avons besoin de patience, etc., etc. On oublie que l'amour chrétien doit être réciproque les uns les autres, si on veut éviter le découragement. Là encore, c'est peut-être de fausses impressions, mais il y a le risque de se lasser. Alors, il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles on peut se lasser. J'ai pensé à celle-ci, parce que nous sommes imparfaits humainement. Mais nous sommes des saints spirituellement. Heureusement, notre potentiel inouï en Christ nous donne la force de persévérer. Greg nous a fait un bon message dimanche sur cet aspect de la vie chrétienne, de la persévérance qui fait partie de notre formation, des épreuves qui font partie de notre formation et qui sont en soi une bénédiction qui peut paraître un peu négative, mais qui participe à notre croissance spirituelle. Et nous avons le potentiel de persévérer par le Saint-Esprit, de nous renouveler à l'infini, j'ose le dire. Si nous, nous croyons qu'on ne peut plus se renouveler, c'est qu'on ne voit pas Dieu tel qu'il est. On ne voit pas le Saint-Esprit tel qu'il est. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même et il est infini. Et ses ressources sont infinies. Ses ressources d'amour sont infinies. Quand j'ai épousé mon épouse, j'avais choisi un Corinthiens 13 et je l'avais gravé dans mon alliance. Je l'ai pas refait parce que le doigt il a grossi et l'alliance elle est dans une boîte. Mais j'avais fait graver dedans l'amour agapé de Dieu ne périt jamais. Toute ma vie, je peux puiser dans cet amour si je veux éviter le naufrage. Et ça c'est encourageant. Vous qui êtes mariés, vous avez un potentiel infini d'aimer votre conjoint, d'aimer vos enfants, d'aimer votre famille. Et pareil pour vous qui êtes célibataires, vous avez un potentiel d'aimer les vôtres, d'aimer ceux qui sont autour de vous, grâce au Saint-Esprit, pas simplement par votre éducation. Alors que faire? Galates 6:10 nous dit ainsi donc, « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Alors ce verset, je vais vous surprendre peut-être, mais il est mal traduit, vraiment. Il est vraiment mal traduit. Littéralement, et vous allez voir la différence, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, produisons le bien pour tous, surtout pour les proches dans la foi. » Vous voyez la nuance ? D'abord, est-ce que nous saisissons les occasions? Il ne s'agit pas de se mettre la pression 24 heures sur 24, de se taper la tête contre les murs en disant « je dois aimer, je dois aimer, je dois aimer, je dois aimer ». Mais non, nous sommes limités. Et le Saint-Esprit connaît nos limites. Il connaît notre quotidien. Il sait de quoi nous avons besoin. Et lui peut nous donner des occasions dans la journée, en dirigeant notre journée. Il peut nous donner une occasion qui va nous surprendre peut-être. Par exemple, d'être bienveillant avec quelqu'un, en voiture par exemple. Vous allez être surpris de voir que vous ne vous êtes pas énervé parce que la personne vous a fait une queue de poisson, ou elle vous a refusé la priorité, ou ce piéton il a traversé au mauvais moment. Je vous en prie. Cette courtoisie qui devrait faire partie aussi de nos valeurs chrétiennes, n'est-ce pas? C'est une traduction dans le quotidien, mais au départ, c'est la bienveillance de Dieu qui est à la racine de ce fruit-là. Alors, faites-vous la différence entre pratiquer et produire comme ça, chaud. Je peux pratiquer le jardinage et ne rien produire. Je peux pratiquer une religion et ne rien produire. Je peux pratiquer des exercices spirituels et ne rien produire. Seul le potentiel du Saint-Esprit nous a été donné pour produire le bien. Et j'ai beaucoup apprécié cette traduction littérale dans le texte grec, que nous sommes des producteurs de bien et non pas des pratiquants de bien. Vous voyez la différence? Je trouve que c'est quand même autre chose. Pratiquer fait plutôt référence à la loi, produire fait allusion à l'Esprit Saint, à la grâce, que ça ne vient pas de nous, ça vient vraiment du Seigneur, qui a préparé tout ça d'avance, ces bonnes œuvres qu'il a mis d'avance afin que nous les pratiquions. Nous semons, si nous semons pour l'Esprit, nous allons produire les fruits de l'Esprit, des fruits inestimables, parfaits et bienfaisants. Nous allons en voir un petit peu la liste maintenant. Vous connaissez bien ce verset, Galates 5, 22, n'est-ce pas? Littéralement, ça, c'est plutôt comme ça. Il n'y a pas d'article, ça se présente comme ça. Le fruit produit par l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, confiance ou foi, douceur, maîtrise de soi. Rien à voir avec une pratique légaliste. C'est la graine qui produit l'arbre et le fruit, bien sûr, si la terre est bonne. Mais si nous sommes en Christ, nous sommes une bonne terre. Nous avons reçu le message de l'Évangile, nous avons reçu sa parole depuis des années, parfois des décennies. Et nous avons ce potentiel extraordinaire de produire le bien. Donc pas de risque de s'enorgueillir, puisque c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Donc, on n'a pas le risque de ce que décrivait tout à l'heure Jérémie, de dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis méritant ». Non, non. Si c'est l'Esprit qui le fait, ce n'est pas nous. Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc si je fais quelque chose de bien, gloire à Dieu, gloire à Christ et gloire à son Esprit, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez la différence de perspective là. Moi je trouve c'est franchement dynamique de le considérer ainsi. Pas besoin non plus de nous comparer avec les autres. Ça c'est la tendance un peu chez nous les êtres humains. Oh, on a tendance à se comparer un petit peu. Mais si tout se fait en réciproque, le fruit de l'Esprit, s'il se produit en réciproque, il n'y a aucune frustration, il n'y a aucun manque, il n'y a aucune comparaison possible. L'Esprit Saint fait ce qu'il veut dans notre vie si on lui laisse vraiment la place qui lui revient. Alors, petit rappel, ces fruits de l'Esprit, petite précision j'avais déjà donnée au mois de, je ne sais plus, septembre. L'amour, ce n'est pas l'amour humaniste qui est le fruit de nos efforts, hein, on est bien d'accord, c'est agapé. Agapé, l'amour divin. La joie, une réjouissance intérieure profonde et constante, ce n'est pas la joie du monde et ce n'est pas la joie des circonstances. Même si on peut glorifier Dieu quand on a de bonnes circonstances, hein, ne nous en privons pas, parce que c'est aussi grâce à lui. La paix, un repos et une quiétude intérieure, même dans l'adversité. La patience, supporter la provocation, et ce n'est pas être zen. Être zen, c'est un petit peu se mettre dans une bulle. Le chrétien n'est pas dans une bulle. Le chrétien, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Et le chrétien, il a besoin de ressources célestes pour vivre dans un monde malveillant, un monde violent. Et il a tout le potentiel pour vivre et non seulement supporter avec patience cette malveillance, mais donner de la bienveillance, produire le bien. C'est splendide. la bonté, la bienveillance, cette fois-ci plutôt en action, pas simplement dans le fait de supporter. La bienveillance, aimer les autres même s'ils ne le méritent pas. C'est déjà plus difficile ça. Hein? La foi, être digne de confiance, fidèle, fiable. La douceur, soumis à la parole mais plein d'égards pour le fautif. La maîtrise de soi, le contrôle de soi, de son caractère, de son tempérament. D'ailleurs, Farida lisait un livre il y a longtemps qui s'appelait « Le tempérament dirigé par l'esprit ». C'est intéressant, je ne sais plus de qui il est ce livre chrétien. Même Jacques nous dit que la langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais l'Esprit Saint, oui, il peut la dompter. Si nous sommes à son service, si nous le laissons conduire notre vie. Alors une priorité, vous aurez remarqué dans ce texte, c'est produire le bien, surtout envers nos proches en la foi. Intéressant ça. C'est-à-dire les chrétiens de notre assemblée locale, ceux en particulier avec qui nous avons une proximité, notre famille de chair croyante, faut pas l'oublier. Réjouissez-vous, mes amis, si vous avez des croyants dans votre famille de chair, des frères, des sœurs, des parents, réjouissez-vous. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas mon cas. Réjouissez-vous et pratiquez le bien dans votre famille. Réglez les problèmes que vous avez à régler entre croyants et montrez au monde que l'Esprit Saint est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde et que vous pouvez glorifier Dieu par l'harmonie dans vos familles chrétiennes. Alors bien sûr, notre famille de chair croyante aussi, hein, c'est important. Sans oublier notre conjoint, des fois qu'on oublie. on est tellement un avec le conjoint que on oublie des fois. Mais il faut le chérir aussi, n'est-ce pas, spirituellement parlant. Et sans oublier les autres croyants, bien entendu. Sans oublier non plus les non-croyants. Un monde corrompu et perdu qui a tant besoin de goûter aux fruits du Saint-Esprit, en particulier la bienveillance, la maîtrise de soi, et finalement, le véritable amour. Parce que quand Galates 5, 22 dit le fruit de l'esprit, il dit bien le fruit, il dit pas les fruits. Le fruit, c'est vraiment l'amour qui se décline sur tout le reste. L'amour, pour nous, c'est des fois un peu un bout de guimauve, doucenet, sucré, c'est pas ça. C'est vraiment tous ces fruits que le Saint-Esprit nous a montrés tout à l'heure. Alors, même Philippiens 4, 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que tous les hommes que nous fréquentons, des non-croyants, connaissent par notre quotidien la douceur? C'est une bonne question, hein? Mais c'est pourtant ce que l'Écriture nous encourage, que nous soyons réputés pour notre douceur. Si vous êtes derrière un guichet de bureau et puis vous recevez des clients irascible, est-ce que vous allez répondre avec douceur? Il est dit qu'une réponse douce calme la colère. Alors moi, j'ai tendance à démarrer au quart de tour. Et là, j'ai besoin de l'esprit, si vous saviez. Mais combien des fois on se surprend quand le Saint-Esprit vraiment reprend le pouvoir? Mais une réponse douce calme la fureur. Si un jour quelqu'un vous agresse, faites l'essai. Répondez-lui avec amour et douceur de Christ. Il va être vraiment déstabilisé, je peux vous l'assurer. Parce que le potentiel de l'Esprit Saint va agir à ce moment-là. Et il y a même des gens qui se sont convertis à cause de la douceur. Je me rappelle d'une histoire, je sais plus dans quel livre j'ai lu ça. Ça devait être un livre sur un grand réveil de Charles Finet ou je sais plus quoi. Et un homme de Dieu visite une entreprise de textile et il entre dans un atelier avec des machines à coudre qui faisaient un boucan pas possible. Et puis il commence à parler du Seigneur et tout. Et il y a une fille qui commence à ricaner, qui se moque du serviteur de Dieu. Il aurait pu la remettre à sa place. Il dit quand même. Non, il a simplement regardé. Avec douceur. Et elle en a perdu son aiguille. Elle savait plus où elle était. Elle était perturbée par cette œuvre du Saint-Esprit à travers ce simple regard de douceur. Alors, je ne sais plus si elle s'est tournée vers le Seigneur après, mais en tout cas, elle a été perturbée. Elle a réagi à l'amour de Dieu, exprimé par un regard. Et même nos regards, des fois, ils ont besoin d'être aiguisés par le Saint-Esprit, hein, parce que des fois, les expressions sont des fois parlantes. Hein. Alors, en conclusion, parce que le temps passe, malheureusement, nous avons un potentiel inouï grâce à l'Esprit Saint. Est-ce que vous en êtes conscient de ce potentiel que vous avez, du privilège que vous avez, que j'ai? Nous avons tout pleinement en Christ, nous dit l'Écriture. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Nous n'avons pas besoin de nous soucier de nous-mêmes. Tout est réglé là-haut. Nous avons tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, nous dit Pierre. Dans 2 Pierre 1:3. Pourquoi gémir sur notre sort? Pas besoin de chercher ailleurs ce que nous avons déjà. Comment ne pas être reconnaissant? Nous pouvons avoir un impact formidable sur notre entourage, croyant ou non. Tout dépend de ce que l'on sème, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si nous semons pour le terrestre et la chair, le déclin spirituel nous attend. Si nous semons pour le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit qui bénira les autres. Ne nous lassons pas de produire du bien par le Saint-Esprit, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la confiance, de la douceur, de la maîtrise de soi. Quel beau fruit, je ne me suis plus à répéter ça. On a tellement besoin, et ce monde malveillant a tellement besoin. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit, nous dit Paul en Galates 5, verset 25. C'est pas le tout d'être né de nouveau. Le Saint-Esprit a ses effets quand il nous baptise, une fois pour toutes, et a fortiori ensuite quand il nous remplit, si nous cherchons cette plénitude du Saint-Esprit qui nous est ordonnée par l'Écriture. Nous avons absolument besoin du Saint-Esprit pour aimer les autres. Et le Saint-Esprit, il est là. Ce n'est pas la peine de lui demander de descendre. Il est déjà descendu. À la Pentecôte, il est descendu. Il a béni les Juifs, il a béni les Samaritains, il a béni les païens. Et la promesse de recevoir l'Esprit est pour tous ceux en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera et qui mettront leur confiance en Jésus-Christ. Alors on va terminer par la prière. Ô Père Céleste, combien nous voulons te remercier pour ce potentiel extraordinaire, inouï, que tu as mis en nous quand tu nous as donné ton Saint-Esprit, quand nous sommes nés de nouveau. Nous n'imaginons pas peut-être 10% de ce privilège. Mais nous voulons vraiment méditer sur ces vérités pour laisser à cette graine, à ce potentiel, la possibilité de produire le bien autour de nous, parmi nos proches croyants et aussi parmi les non-croyants, que nous ayons vraiment un impact spirituel grâce au Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour la gloire de ton nom et le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Comme lui savait toucher les âmes, toucher les cœurs, toucher les corps. Seigneur, nous voulons faire le bien, produire le bien grâce à toi, autour de nous. C'est ce que tu attends de nous. Et nous te remercions que nous avons tout pleinement en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu vous bénisse et vous aide à prendre conscience de ce potentiel extraordinaire. Amen. Amen.